Bonjour à chacun. J'aimerais introduire mon propos ce matin avec cette citation d'un certain Meyer, citée par Alfred Kuhn dans son commentaire sur Jacob. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais pour nous rendre bons. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais pour nous rendre bons. Depuis le début de la série sur Jacob, nous avons vu que le choix de Dieu s'est porté sur Jacob. En effet, c'est Jacob et non Dieu, et non Ésaü, pardon, que Dieu a aimé. Et nous avons vu que cet amour de Dieu pour Jacob trouve sa source non pas en Jacob, mais en Dieu lui-même et en Dieu seul. Jacob n'était pas meilleur qu'Ésaü, son frère. Il a été simplement l'objet du choix souverain de Dieu. En fait, nous l'avons déjà bien constaté dans cette série, Jacob est tout sauf aimable. C'est un roublard, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a aimé. C'est lui que Dieu est en train de façonner. Quel encouragement pour nous face à nos propres manquements et nos fautes qui pourraient nous faire parfois douter de l'amour de Dieu pour nous. Dans la suite du récit ce matin, nous allons voir l'ensemble des ingrédients auxquels nous sommes maintenant habitués dans cette série. Tout y est ou presque. Manigance, ruse, tromperie, ressentiment et tension en tout genre, et j'en passe. Mais si ces ingrédients sont là, nous allons constater que Dieu est néanmoins à l'œuvre. Nous allons aussi constater que Jacob en est de plus en plus conscient. Et ça, c'est un vrai progrès qu'il faut noter. En effet, Dieu poursuit son œuvre en Jacob. Il le bénit, il poursuit son éducation spirituelle. C'est un long processus, jalonné de sévères leçons propres à faire réfléchir Jacob. Mais c'est un processus certain. Certain parce que Dieu tient toujours ses promesses. Des promesses faites à Abraham, puis à Isaac, et enfin à Jacob. Souvenons-nous de cette révélation de Dieu à Jacob au chapitre 28, versets 12 et 15. Il, c'est-à-dire Jacob, fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que j'ai dit. » Oui, Dieu a fait des promesses à Jacob. Promesse d'une terre, promesse d'une descendance nombreuse, promesse d'une bénédiction à tous les clans de la terre, par lui et par sa descendance, promesse de la présence de Dieu et de la protection de Dieu, promesse d'un retour en Canaan. Oui, clairement, Dieu est à l'œuvre en Jacob. Jacob est imparfait, mais il est l'héritier des promesses. Jacob est imparfait, mais Dieu est fidèle. Quel encouragement pour nous face à notre propre infidélité envers le Seigneur. Ceci dit, si Dieu va bénir Jacob, il va aussi permettre qu'il continue à être éprouvé. Éprouvé en particulier par la malhonnêteté de Laban. Des épreuves dont Dieu va se servir à l'évidence pour continuer à façonner Jacob, qui va bientôt dans le récit, pas aujourd'hui, mais bientôt, qui va bientôt devenir Israël. Ce matin, le champ à couvrir est assez vaste, ce qui fait que je vais passer rapidement sur certains aspects que je ne lirai pas tous les versets de la portion que j'aimerais considérer avec vous ce matin. Elle va du chapitre 30, verset 21, jusqu'au chapitre 31, verset 54. Et nous commençons notre lecture au chapitre 30, verset 25, et je lis maintenant jusqu'au verset 34. Lorsque Rachel eut mis Joseph au monde, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. » « Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Tu sais toi-même tout le travail que j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Je t'en prie, que je trouve grâce à tes yeux. Je l'ai appris par divination. C'est à cause de toi que le Seigneur m'a béni. » Il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob dit, « Tu sais toi-même comme je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau grâce à moi, car le peu que tu possédais avant moi s'est beaucoup accru, et le Seigneur t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ?» Laban dit, « Que dois-je te donner ?» Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à faire ce que je vais te dire, je recommencerai à faire paître ton petit bétail, je le garderai. Aujourd'hui, je passerai parmi tout ton petit bétail, mais à part toute bête tachetée et marquetée, et toute bête de couleur foncée parmi les moutons, de même parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma justice répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres ou foncé parmi les moutons, c'est que je l'aurai volé. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. » C'est seulement après la naissance de Jacob, que Jacob décide de retourner vers les siens. Peut-être le décide-t-il à ce moment-là parce que l'opprobre de la stérilité de Rachel a maintenant disparu et qu'il se sent peut-être enfin le courage de retourner dans son pays et dans sa famille. C'est aussi de façon beaucoup plus prosaïque, simplement, la fin des deux périodes de 7 ans pendant lesquelles Jacob a dû travailler pour son oncle afin d'obtenir la main de Léa et de Rachel. Au bout de ces 14 années, Jacob a fini de payer sa dette. Il est maintenant libre de partir. Et c'est ainsi au verset 25 et 26 que Jacob sollicite la permission de son beau-père de rentrer chez lui. Mais Jacob ne possède rien. C'est pour les dots de Léa et de Rachel qu'il a travaillé pour son beau-père pendant 14 ans. Il est temps qu'il pense à lui et à sa famille, comme il le souligne d'ailleurs au verset 30. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma famille ? Cette situation de Jacob, Laban la connaît parfaitement, puisqu'il en est le principal artisan. Il sait aussi que la famille de Jacob est maintenant nombreuse. C'est pourquoi il lui dit de fixer son salaire au verset 28. Notons qu'auparavant, Laban a mentionné qu'il a appris par divination, que c'est à cause de Jacob que Dieu l'a béni. Avec la mention de cette pratique occulte de divination, puis plus tard dans le récit avec la mention des idoles de Laban, nous comprenons que Laban n'est pas un vrai adorateur du Dieu d'Abraham, dont il a forcément entendu parler, puisque son grand-père, Nahor, est le frère d'Abraham. Oui, versets 29 et 30, Dieu a béni Laban par Jacob, et le peu qu'il possédait s'est beaucoup accru depuis que Jacob a mis les pieds chez lui. Qu'est-ce que Laban va devoir donner à Jacob? Verset 31, Jacob lui répond, « Tu ne me donneras rien. » En fait, nous comprenons à la lecture du texte que ce que Jacob désire, c'est gagner un salaire, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché qu'il propose à son beau-père est en sa défaveur. Sa proposition à son oncle est très généreuse. Il propose, verset 32, de garder pour lui uniquement les bêtes tachetées ou marquetées et les moutons de couleur foncée. Alors pourquoi le deal qu'il propose est-il clairement à l'avantage de Laban? Premièrement, parce qu'en Orient, les moutons sont, pour la quasi-totalité, sont blancs. Je n'ai pas été vérifié, mais c'est ce que j'ai lu partout. Et les chèvres sont noires. Donc les bêtes tachetées et marquetées ou les moutons noirs sont assez rares et clairement les moins nombreux dans le troupeau. C'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que ces bêtes-là, tachetées et marquetées, sont celles qui sont le plus dénuées de valeur. Ce sont celles qui n'offrent qu'un intérêt secondaire à cause de leurs taches ou de leurs raies pour les éventuels acheteurs de laine. Le deal est tellement à l'avantage de Laban que celui-ci n'hésite pas un instant, il ne se fait pas prier. Verset 34, Laban dit, eh bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. Que se passe-t-il ensuite? Nous lisons les versets 35 à 36. Ce même jour, il, c'est-à-dire Laban, mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était foncé parmi les moutons, il les confia à ses fils, puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob qui faisait paître le reste du petit bétail de Laban. Que s'est-il passé ensuite? Chasser le naturel et il revient au galop. Il n'y avait que des avantages pour Laban, que des avantages. Mais ce n'était à l'évidence pas assez pour ce fourbe à l'appétit insatiable. Et c'est ainsi que Laban fait rassembler le même jour toutes les bêtes qui ont les caractéristiques demandées par Jacob. Puis il confie le troupeau à ses fils, leur demande de partir à 3 jours de marche. Ni vu ni connu, l'affaire est dans le sac. Jacob est à nouveau trompé par son beau-père. Nous devons reconnaître que Laban est un maître escroquerie. Dans la suite du récit, nous voyons Jacob procéder à un drôle de stratagème pour contrecarrer la malhonnêteté de son oncle. On pourrait dire ici à malin, malin et demi. Je lis la suite du récit, les versets 37 à 43. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches en mettant à nu le blanc des branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où le petit bétail venait boire, juste en face des bêtes qui entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes entraient en chaleur près des branches et elles firent des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob sépara les moutons. Il tourna les bêtes vers ce qui était rayé, vers tout ce qui était foncé, parmi les bêtes de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas au bétail de Laban. Toutes les fois que des bêtes vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des bêtes, pour que celles-ci entrent en chaleur près des branches. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les plaçait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Celui-ci s'enrichit de plus en plus. Il eut du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Le stratagème mis en place par Jacob est plutôt bizarre. Il faut bien le reconnaître. On est certainement dans une pratique qui tient plus de la croyance ésotérique, de la superstition, voire de la magie, qu'autre chose. Et cela nous rappelle que les choses sont toujours plus mêlées qu'elles n'y paraissent. Il y a encore à ce stade de la vie de Jacob bien des scories attachées à sa foi. Ce stratagème va prendre 6 années, 6 années au bout desquelles Jacob se sera considérablement enrichi, comme le souligne le verset 43. Malgré les efforts de son beau-père pour limiter son troupeau, le troupeau que Jacob doit se constituer comme son salaire, Jacob va finir par se retrouver à la tête d'un cheptel considérable. Six années ont passé donc, et l'enrichissement de Jacob n'est pas du goût de tout le monde. C'est ainsi qu'au verset 1 du chapitre 31, Jacob finit par entendre, par surprendre une conversation des fils de Laban qui se plaignent à son sujet en affirmant que les richesses de Jacob, il les a volées à son beau-père, à leur père. En parallèle, au verset 2, Jacob remarque que l'attitude de Laban a changé à son égard. Pour Jacob, clairement, la météo annonce un avis de tempête. Verset 3, c'est le moment que Dieu choisit pour dire à Jacob de retourner en Canaan en lui rappelant qu'il sera avec lui. Fort de cette parole de Dieu, Jacob décide de parler à Léa et Rachel. Et nous poursuivons notre lecture au verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, près de son petit bétail. Il leur dit, « Je remarque que le visage de votre père n'est plus envers moi comme d'habitude. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Or, votre père a essayé de me tromper et il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les bêtes faisaient des petits tachetés. S'il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les bêtes faisaient des petits rayés. Dieu a dépouillé votre père de son troupeau et il me l'a donné. Au temps où les bêtes entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les mâles qui couvraient les bêtes étaient rayés, tachetés et mouchetés. Le messager de Dieu m'a dit en rêve, « Jacob !» J'ai répondu, « Je suis là !» Il a dit, « Lève les yeux, je te prie et regarde. Tous les mâles qui couvrent les bêtes sont rayés, tachetés et mouchetés. Car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as fait l'onction d'une pierre levée et où tu m'as fait un vœu. Maintenant quitte ce pays et retourne au pays de tes origines. Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part, un patrimoine dans la maison de notre père ? Ne nous considère-t-il pas comme des inconnus, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse dont Dieu a dépouillé notre père nous revient à nous et à nos fils. Maintenant, fais tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob explique donc la situation à ses deux épouses, et on est presque surpris de les voir s'entendre, de les voir se comprendre. Au point que Rachel et Léa, d'une même voix, encouragent Jacob à obéir à Dieu. Il faut dire que pour les deux femmes, la coupe concernant les agissements de leur père est clairement pleine. Elles semblent avoir maintenant bien compris la nature de leur père, qui à l'évidence a bien profité de leur mariage sans jamais penser à elles. Ce qu'elles disent d'une même voix est sans appel. Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part, un patrimoine dans la maison de notre père ? Ne nous considère-t-il pas comme des inconnus, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ?» Pour bien comprendre toute la mesure de ce que disent ici Rachel et Léa, il faut savoir que les lois en vigueur à cette époque, dans ces contrées-là, et tout ça, ça a été confirmé par la découverte fabuleuse des tablettes de Nuzi, hein, des milliers de tablettes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette tablette, des tablettes cunéiformes, qui confirment que la dot qui était versée au père par le fiancé, par la famille, finissait par revenir à un certain moment à l'épouse, en particulier dans certaines situations comme le veuvage, le divorce, etc. À l'évidence, les 14 années de travail de Jacob pour Léa et Rachel, qui correspondent à la dot de Jacob pour ces deux femmes, à l'évidence, Laban a tout gardé pour lui et il ne reste rien pour ses filles. Et c'est la raison pour laquelle elles disent au verset 15 que leur père les a vendus et qu'elles disent qu'il a mangé leur argent. Cet argent qui devait finir par leur revenir. Et c'est pourquoi elles disent aussi qu'elles sont pour leur père comme des inconnus, littéralement comme des étrangères. Plus rien donc ne semble les retenir. Léa et Rachel sont maintenant contre toute logique et à cause de la fourberie de leur père, sont prêtes à partir, prêtes à quitter leur pays, prêtes à quitter leur parenté. Et elles disent à Jacob, « Maintenant, fais tout ce que Dieu t'a dit. » Rapidement ici, trois choses qui me semblent importantes dans les versets que nous venons de considérer. Premièrement, le beau plaidoyer de Jacob à ses deux épouses, qui souligne en particulier la faveur de Dieu pour Jacob au verset 5. Et puis, deuxièmement, nous apprenons que depuis 6 ans, Laban n'a cessé de modifier les règles du jeu concernant le salaire à 10 reprises, dit le texte. Sans doute en constatant l'accroissement du troupeau, il modifiait au fur et à mesure pour essayer d'entraver les choses et essayer d'empêcher Jacob d'acquérir un grand troupeau. Laban est vraiment ce qu'on pourrait appeler une crapule. J'espère que je choque personne, mais il me semble que je pèse mes mots quand je dis ça. Mais ici, encore, Jacob va souligner l'action de Dieu au verset 7. « Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Et puis un peu plus loin au verset 9, Dieu a dépouillé votre père de son troupeau et il me l'a donné. » Et puis troisièmement, nous apprenons ici que Dieu s'est révélé une deuxième fois à Jacob. Le Dieu qui s'était déjà révélé à Bethel le fait à nouveau ici, en disant au verset 12, « J'ai vu ce que Laban t'a fait. » Est-ce que c'est la bonne diapositive ? Oui. « Car j'ai vu ce que Laban t'a fait. » Et qu'apprenons-nous ici, dans cette nouvelle révélation de Dieu à Jacob ? Nous apprenons, mais on s'en doutait quand même, que c'est Dieu lui-même, et pas du tout le stratagème bizarroïde de Jacob qui a présidé à l'accroissement du troupeau. Clairement, la main de Dieu est sur Jacob. Puis Dieu dit à Jacob de quitter ce pays et de retourner au pays de ses origines. Et c'est ainsi, apprenons-nous dans les versets suivants, que sans en informer Laban, Jacob et les siens, avec tous leurs biens, quittent, on devrait même dire fuient, Padan Aram, profitant que Laban est parti tondre son petit bétail. Et nous apprenons ici un détail qui aura son importance par la suite. Nous apprenons qu'en partant, Rachel a volé les téraphim, c'est-à-dire les petites idoles de son père. C'était des petites statuettes à figures humaines qui étaient censées assurer la protection du foyer, censées aussi assurer la prospérité du foyer. Et on les emportait en voyage comme des amulettes pour se protéger. À l'évidence, Rachel n'en a pas encore tout à fait fini avec son passé polythéiste. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas encore entièrement le sien. Dans la suite du récit que je ne lis pas, Laban va se rendre compte de la fuite de Jacob au bout de 3 jours et il se lance à sa poursuite avec ses frères. Il lui faudra 7 jours pour rattraper Jacob. Si Laban, dans le texte, va reprocher à Jacob d'être parti sans rien dire, d'être parti comme un voleur avec ses filles, lui assurant qu'il ne se serait pas opposé à ce qu'il parte, il souligne surtout qu'il a le pouvoir de lui faire du mal, de leur faire du mal, mais que Dieu s'est révélé à lui pendant la nuit qui a précédé pour le lui interdire. Verset 29, « J'ai le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit la nuit dernière, garde-toi de rien dire à Jacob. » Ici, comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, clairement la main de Dieu est sur Jacob. Et puis Laban mentionne les fameuses idoles volées, les téraphim. C'est finalement ce qui semble le préoccuper le plus. Bien sûr, il va perdre son gendre avec le départ de Jacob. Il va perdre un ouvrier consciencieux qui lui a rapporté gros pendant toutes ces années. Mais il peut certainement s'en accommoder puisqu'il s'est considérablement enrichi par Jacob. Par contre, perdre ses idoles, c'est autre chose. Et Laban se révèle être clairement du côté des idoles et non du côté du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors s'ensuit une fouille en règle, on ne va pas rentrer dans les détails, une fouille qui ne va pas aboutir parce que les statuettes que Rachel a volées, elle va les mettre sous elle, elle va rester assise et elle va prétendre qu'elle a ses règles pour ne pas avoir à se lever. Ce mensonge au sujet de ces règles, c'est donc ce qui permet à Rachel de ne pas se lever, ce qui était la coutume, quand son père entre dans sa tente. C'est aussi ce qui fait que Jacob n'aura même pas l'idée d'aller fouiller là, à cet endroit, considéré comme impur. Et puis, jamais Laban n'aurait pu imaginer que sa fille oserait rendre ses dieux impurs en s'asseyant dessus tout en ayant ses règles. Alors, à l'évidence, dans le domaine de la tromperie, les chiens ne font pas des chats. Et Rachel s'avère être aussi redoutable que son père, voire peut-être encore plus. En tout cas, elle est clairement de la même trempe que Laban. Et donc aussi de la même trempe que Jacob. On arrive au bout. Une fois la fouille terminée et infructueuse, Jacob, qui ne sait pas que Rachel a volé les Théraphim, va s'emporter contre son beau-père, tout en reconnaissant que la main de Dieu, le Dieu de son père Isaac, le Dieu d'Abraham, l'a gardé et a rendu son arbitrage. Ce sont les versets 36 à 42, je lis juste le verset 42. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la frayeur d'Isaac, n'avait été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon affliction et ma fatigue, et la nuit dernière, il a rendu son arbitrage. » Dans la toute dernière partie que nous n'allons pas lire, il y a la mention de cette alliance que Laban et Jacob vont conclure. Qu'ils vont conclure en établissant une frontière que ni l'un ni l'autre ne devra franchir. La séparation est définitivement actée. Et à la fin de cette alliance, nous voyons Laban qui va prêter serment par le Dieu d'Abraham, mais aussi par le Dieu de Nahor, ou les dieux de Nahor. Et puis, Jacob, lui, va prêter serment par le Dieu d'Abraham seul. Et Jacob va utiliser ici un titre pour Dieu, dont le sens est assez incertain. La Nouvelle Bible Seconde traduit « la frayeur d'Isaac ». Et la Bible du Semeur, on comprend mieux le sens, traduit « le Dieu que redoutait son père Isaac ». Voilà certainement le sens qu'il faut donner à ce titre divin. Le Dieu de ses pères que Jacob invoque ici, lors de son serment, qui s'est déjà révélé à deux reprises au moins, va continuer son œuvre dans Jacob. Et il va encore une fois se révéler à lui, ça sera pour la prochaine fois, et ça va déboucher sur un changement radical dans la vie de Jacob. Alors, c'était long, j'en suis tout à fait conscience, mais vraiment il fallait avoir l'ensemble de ce parcours pour bien comprendre ce que je vais dire maintenant dans la conclusion. Les trois leçons rapides que je vais énoncer maintenant vraiment sortent de tout ce parcours. Et la première d'entre elles, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Et j'ajoute rapidement que nous en soyons conscients ou pas, que nous le voyons ou pas, Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Ce qui est clair avec la vie de Jacob et encourageant, me semble-t-il, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que l'action de Dieu dans notre vie ne dépend pas de nos mérites. Ce n'est pas ce que nous faisons, ou ce n'est pas parce que nous faisons tout bien que Dieu va agir en nous ou va agir pour nous. Comme nous le disions au tout début de ce message, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais pour nous rendre bons. En fait, c'est parce que Dieu est fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole, à ses engagements, qu'il agit en faveur de ses enfants. C'est flagrant dans la vie de Jacob, la vie de ce roublard, qui a continué à être jalonné par toutes sortes de ruses et de stratagèmes et de tromperies. Et pourtant, Dieu agit en faveur de Jacob parce qu'il est fidèle à lui-même et fidèle à ses promesses, à sa parole. Bien évidemment, ce n'est pas parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que je fais, de ce que nous faisons, que je peux faire n'importe quoi. Certains pourraient arriver à cette conclusion. Puisque quoi qu'il arrive, Dieu va agir, Dieu va bénir. Alors ce n'est pas ce que j'ai dit, et ce n'est pas ce que dit la Bible non plus. L'apôtre Paul aborde ce sujet dans Romains 6, où il pose cette question. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne, abonde ? Et quelle est sa réponse au verset suivant ? Jamais de la vie. Demeurez dans le péché. Jamais de la vie. Si nous sommes en Christ, nous sommes morts pour le péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché ? Oui, en Christ, nous sommes morts pour le péché. Et nous sommes appelés à vivre en conséquence, en cohérence avec cette position, ce statut que nous avons en Jésus-Christ. Bien évidemment, avec l'aide du Seigneur, et bien évidemment aussi avec son pardon quand nous n'y arrivons pas. Quoi qu'il en soit, soyons toujours pleins de reconnaissance à Dieu parce qu'il est à l'œuvre dans la vie de ses enfants, toujours à l'œuvre. Et cette œuvre qu'il a commencée en chacun de ses enfants, il la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit au début de sa lettre aux Philippiens. Deuxième leçon que j'aimerais souligner à partir de notre passage, c'est l'importance du discernement de la main de Dieu qui nous conduit dans notre vie. C'est un exercice spirituel que nous devons cultiver parce qu'il est à notre avantage, parce qu'il est pour notre bien. Jacob, dans les versets que nous avons considérés ce matin, fait mention à de nombreuses reprises de la main de Dieu dans sa vie. Nous l'avons vu et souligné au fur et à mesure. J'ai regroupé les choses les plus marquantes dans cette diapositive, de ces paroles qui témoignent de ce regard de Jacob qui est en train de changer. C'est comme si Jacob avait commencé à prendre conscience de cette réalité. C'est comme s'il y avait de sa part une sorte de lâcher-prise progressif. Alors que ce regard manquait cruellement au début de l'histoire, nous le voyons s'opérer maintenant dans la vie de Jacob, dans la croissance spirituelle du chrétien. Ce regard qui discerne la main de Dieu dans notre vie, ce regard est fondamental. C'est d'une certaine manière faire ce que dit ce cantique ancien quand il nous invite à compter les bienfaits de Dieu. Si vous connaissez le cantique et la plupart le connaissent, dans ce cantique, cette action compter les bienfaits de Dieu, elle est présentée à notre avantage. Elle est présentée pour notre bien dans différentes situations décrites dans les différentes strophes, quand le vol de la tempête vient assombrir notre ciel bleu, quand sur la route glissante, nous chancelons sous le poids, sous notre croix, quand dans notre voyage, nous perdons un cher et doux trésor. Et quelle est la conclusion à laquelle arrive ce cantique, hormis celle du refrain qui nous invite à compter les bienfaits de Dieu dans toutes ces situations-là ? C'est la dernière strophe du cantique, vous vous en souvenez ? Non, vous en souvenez pas ? Bénis donc, bénis sans cesse, ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. » Voilà la conclusion dans cette quatrième strophe. Alors oui, que Dieu nous accorde cette perspicacité-là pour que nous discernions toujours sa main dans notre vie, la main de son merveilleux amour et tous ses bienfaits. Et puis, dernière chose, c'est la troisième et dernière leçon que je voudrais souligner à partir de notre passage, c'est que rien ni personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan. C'est vrai en général, et c'est vrai en particulier dans la vie de ses enfants. Pendant 20 longues années, Laban n'a eu de cesse de profiter de Jacob, de s'enrichir à ses dépens, de contrecarrer ses plans. Il l'a trompé, il l'a malmené, il l'a méprisé. Il lui aurait même fait du mal quand il l'a rattrapé, si Dieu ne l'en avait empêché. Et il y avait là, dans ses 20 ans, peut-être 1000 raisons pour Jacob de douter de la bonté de Dieu à son égard, de douter des promesses que Dieu lui avait faites. Et pourtant, nous l'avons dit, Dieu était à l'œuvre. Mais non seulement Dieu était à l'œuvre, mais rien de ce que Laban ou quelqu'un d'autre aurait pu faire aurait pu empêcher Dieu de bénir Jacob. Pour cela, bien sûr, il faut le dire, Jacob n'avait pas besoin de recourir à la tromperie. Dieu n'avait pas besoin des magouilles de Jacob pour le bénir, et il l'a fait en dépit de tout cela. Il l'a fait en particulier en dépit de tous les bâtons que Laban n'a cessé de mettre dans les roues de Jacob. Chers amis, je ne sais pas ce que vous vivez, je connais l'une ou l'autre chose, mais je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment dans votre vie, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes au travail. Peut-être y a-t-il un Laban dans votre vie, quelqu'un qui vous rend la vie difficile et qui pourrait vous amener à douter de la fidélité de Dieu à votre égard, si vous êtes son enfant. Et j'aimerais vous encourager, nous encourager ce matin, quelle que soit la situation, à persévérer, à ne pas détourner notre regard du Seigneur, à nous accrocher à sa parole et à ses promesses, parce qu'elles sont dignes de confiance. Elles sont dignes de confiance. Il est le Dieu qui accomplira tout ce qu'il a promis, comme il a accompli tout ce qu'il a promis à Jacob. Il est le Dieu fidèle qui ne change pas. Amen.